Bonjour. Nous commençons avec l'audience 22. C'est sur la situation des droits de l'homme en Haïti. Les trois séances de ce matin seront sur la situation en Haïti. Malheureusement, l'État n'a pas un représentant qui vient ce matin. Alors, vous avez tout le temps pour l'audience, sauf les autres commissionnaires et moi vont poser plusieurs questions. Si vous pouvez laisser un peu de temps pour ça, ça serait très bien. C'est à vous.
Good morning. Honorable members of the commission, my name is Kathy Bergen, and I'm a director of the Disaster Law Center, You, Me, We. I'm here with a team of advocates to testify about an epidemic of forced evictions that is taking place in displacement camps across Haiti. Together, we've undertaken two fact-finding missions to investigate camp conditions, and our partner in Port-au-Prince, the Bureau des Avocats Internationaux, continues to monitor the situation on the ground. Haiti faces a state of emergency on account of forced evictions that pose a grave threat of serious and irreparable harm to internally displaced people, or IDPs. We've documented cases where state agents have destroyed entire settlements, including one case where heavily armed police officers and state-owned bulldozers invaded a camp and, with hardly any warning to the people inside, demolished hundreds of shelters. The police have also beaten and terrorized IDPs while forcing them out of the camps, and they've arrested and detained those who have tried to protest their evictions. We've also dealt with individuals who claim to be camp managers, but who are withholding food, water, and medical aid from targeted camps, leaving the people inside to starve or to send their children out into the streets to hustle for basic survival needs. The data indicates that more than 30,000 people have been evicted since May, and another 144,000 face a threat of imminent evictions. In reality, though, the constant threat of evictions threatens every one of the 1.5 million people who still live in a displacement camp. This, of course, is all taking place against the backdrop of the worst natural disaster in Haiti's history, and a recovery process that can only be described as marginal at best. And so we're here to ask for three things. First, we ask that the Commission take note of the grave situation in Haiti and condemn the epidemic of forced evictions. We ask that the Commission initiate its own investigation to determine the full scope of abuse. And finally, we ask that the Commission call on the government of Haiti, donor states, and NGOs to take all necessary steps to protect Haiti's most vulnerable population from forced evictions. Thank you.
Before the next person speaks, may I ask whether any of the persons involved have requested precautionary measures?
We're actually planning on submitting a request for precautionary measures. We haven't submitted that yet.
Thank you. Good morning. I'm Nicole Phillips, staff attorney with the Institute for Justice and Democracy in Haiti and Bureau des Avocats Internationaux, BAI. The video that we're going to show you this morning was filmed and produced at our BAI office in Port-au-Prince and provides interviews and with communities that we, including our managing attorney, Mario Joseph, are helping to protect against unlawful evictions.
Dans sitin n'a fait mardi 12 octobre pour faire bruit la tête gouvernement pour faire bruit la tête l'état pour demander bon Jean Caille pour nous rété et puis pour nous demander chef gouvernement prendre responsabilité pour demander freiner expulsion forcée à faire comme déplacer interne.
Qui
persécution. Persécution comment? Yo wè moun vin attaquer nous, dit que ça n'a fait là, on pa gen ka écraser vrai et aller la caille nous et y a vinn blé, y a vinn tuer nous. Souvent c'est slogan ça. Et même la police même peut accuser nous qui réfugiés là que nous-mêmes nous situons bandits en battant. Ça a été mis nous dans nous prenons des prêtres, nous pas contre qui ça volonté et le 4 juillet nous pas de résister encore et sous les puissants de toute autorité et nous te ici à nous te obligé de n'a toujours fait défense.
Condition pas nous n'ont pas imaginé, c'est pas comme on a vécu, c'est condition bête. Bien monde qui est bête, les bien traités bête là. On pense nous t'as bien vécu, parce que vous gardez bien, la passer sur là, à notre côté n'a vécu, après ce côté où j'étais chez moi, là moi, j'ai chez toilette, c'est là n'a vécu, c'est là n'a dormi. À chaque mois passé, nous toujours en menace.
Et combien de fois les t'es venu pour faire menace?
Bon, ça, nous prenons en avril, nous prenons en juillet, nous avons 24 bim t'es venu, la police faut tout, il va continuer, bim t'es venu tout, il va continuer venir encore, mais tout ça mène toujours à bonne position pour sortir. Alors ça menace, et... il parle de visiter, il dit monsieur qui est en bataille, je suis en bataille, autre dit, qu'il n'y a pas de il faut encaser quand même, on a peur de construire ça là, parce que je ne m'étais pas vu.
Après juillet.
Mais on vient, on connaît des rumeurs qui, même si après l'élection, ils vont le faire, ils vont le reprendre, le 28 novembre, ils vont le reprendre et pression, vous n'avez rien à sortir.
C'est qu'il y a des gens qui étaient habités là, un jour, la pluie tombée, ils montent au hauteur ça, et puis ils prennent toute la net. Même que ça a un passage, dès qu'on coule. Ça. Ça fait la montée. La colle, ça fait son travail là, on prend 2 minutes.
Si vous ce genre de bête qui modèle comme ça, ouais, il gratte. Ouais, j'ai une autre cas, plusieurs cas.
Est-ce qui compte nous aller si vous mettez nous dehors?
Dans la rue, vous nous prenez. Et là, oui, nous n'avons pas l'autre assistance. Nous n'avons pas. Parce que nous n'avons pas vivre dans la condition ça.
We would have liked to have invited some of the camp residents with us this morning, but unfortunately, logistically, that would have been impossible. So we wanted to at least give you a glimpse at some of the lives and some of the stories of the people we represent. BAI has been working around the clock to help communities such as Camp Babancourt and Camp Immaculée, but our small team can only provide direct services to so many camps. We cannot reach the hundreds of camps threatened with eviction, which is why we're soliciting help from the Honorable Commission.
Thank you. Merci, Nicole. Je suis Mario Joseph, avocat et dirigeant du Bureau des avocats internationaux, BAI, à Port-au-Prince, Haïti. Le BAI assiste et représente les victimes des violations des droits civils et politiques d'une part, et d'autre part, les droits économiques, sociaux et culturels par devant les tribunaux et cours haïtiens et les cours internationaux. Et permettez-moi de vous adresser, Madame la Présidente et Messieurs les membres de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, outre mes plus cordiales salutations, mais aussi mes remerciements pour cette audience. Le Bureau des avocats internationaux, BAI, travaille avec plus de 20 camps d'hébergement des déplacés internes qui se trouvent confrontés aux menaces d'expulsion illégale et forcée. Les informations de ce témoignage d'aujourd'hui nous proviennent directement des camps des déplacés internes avec lesquels nous effectuons un travail de terrain. Mais étant donné que ce dont nous disposons est un échantillon assez représentatif, nous concluons qu'on pourrait aisément multiplier par 10 le nombre de camps exposés aux pressions, aux menaces d'expulsion forcée brutale et illégale. Les menaces d'expulsion forcée viennent de particuliers qui se posent en prétendus propriétaires de terres dont ils sont incapables de produire ou de justifier des titres de propriété et qui, pour la plupart, appartiennent à l'État haïtien. Des fonctionnaires du gouvernement, agents du ministère de l'Intérieur, la police nationale, le centre d'équipement national, CNE, les employés des mairies ont aussi participé dans les abus associés aux expulsions forcées. Pour intimider les déplacés internes des camps de fortune, les prétendus propriétaires fonciers s'arrangent le plus souvent pour se faire accompagner d'un juge de paix vénal, sans jugement, et accueillir le service de la police nationale en les sourdoyant et en faisant jouer le mécanisme de la corruption qui sévit en Haïti. Les menaces d'expulsion forcée prennent les différentes formes suivantes. L'agression corporelle sur les résidents des camps, l'harcèlement sexuel, le viol, spécialement sur les femmes, la violence verbale est la menace la plus fréquente. La destruction des tentes en plastique avec des allumettes et des lames de rasoir. La création d'un environnement inhabitable, comme vous venez de le voir, par des procédés peu communs, cohabitation avec des rats, des chiens morts, matières fécales et autres ordures. Et la création d'un environnement social conflictuel. Nous allons vous présenter deux camps d'hébergement internes sous menace d'expulsion forcée. D'abord, le camp Babankou 2. Il a environ 200 personnes au camp d'hébergement des déplacés internes Babankou 2 sur la route de l'aéroport de Port-au-Prince. Ces déplacés internes habitent dans des tentes de fortune en bâche, en plastique et des anciens draps qui ne peuvent pas les protéger contre la pluie, voire une inondation ou une intempérie. Près des tentes se trouvent des fosses d'aisance. L'odeur est écœurante, mais l'espace est si exigu que les résidents sont forcés de s'accommoder. Les fosses d'aisance attirent les moustiques par dizaines de milliers qui donnent des rougeurs sur la peau des enfants, comme vous venez de le voir dans le film, leur transmettant la malaria et d'autres maladies. Les résidents qui n'ont aucune alternative doivent s'adapter à une sorte d'agonie. Le propriétaire de notre pot, qui prétend aussi avoir la propriété du terrain, où il se tient à utiliser en trois fois l'aide de la police nationale pour expulser les déplacés internes. En juillet dernier, il est arrivé au camp accompagné de 24 policiers armés jusqu'aux dents de la brigade d'intervention motorisée BIM, sans être muni d'un jugement, ni même notifié, ni même un huissier, et a intimidé aux déplacés l'ordre d'évacuer immédiatement. Sous l'effet des armes, le comité du camp d'hébergement Babankou 2 a reconnu par lettre les droits du monsieur Gilbert Khan à la propriété et l'a supplié de les laisser, car ils n'ont pas où aller. Malgré la lettre reconnaissant son droit sur la propriété, en plusieurs occasions, M. Khan continue à les harasser. Or, nous sommes informés que M. Khan, qui s'est montré capable de toutes les manœuvres, n'a pas l'ombre d'un titre de propriété. Parallèlement, le comité du camp Babankou 2 s'est mis en quête active d'un endroit alternatif vers où déménager. Psychologiquement, ils vivent comme des bêtes traquées, dans la peur constante et l'imminence d'une expulsion illégale et brutale. Camp Grasse Village à Carrefour. 4 personnes vivant à Grasse Village, un camp de déplacés internes situé à Carrefour, une banlieue de Port-au-Prince, ont été victimes récemment de menaces de mort.
de voies de fait suivies de coups et blessures. Les bandits étaient sous la conduite d'un homme qui devait être le propriétaire de l'espace occupé par les déplacés internes de Grasse Village. Suite à une conférence de presse des victimes sur les attaques subies, le fils du présumé propriétaire et son groupe de bandits ont fait irruption à l'intérieur du camp Grasse Village, brisant des tentes, écrasant tout sur leur passage, s'attaquant violemment aux déplacés, dont plusieurs devraient passer quelques jours sans pouvoir travailler, selon des avis médicaux et rapports du juge de paix de Carrefour. Les activités des déplacés, alors disons, les menaces, ces menaces et autres manœuvres surviennent en vue d'empêcher les déplacés de poursuivre la mobilisation amorcée face aux éventuelles tentatives d'expulsion forcée. Devant cette situation, la police de Carrefour se montre impuissante et complaisante. Les activités des déplacés internes montrent que ce problème est un sujet de grande préoccupation en Haïti, malgré que le gouvernement haïtien s'en foutre. De nombreux comités venant des camps d'hébergement des déplacés internes tiennent des réunions au Bureau des avocats internationaux, BAI, pour recueillir l'assistance légale et déterminer comment mettre un peu de pression sur le gouvernement haïtien pour stopper les expulsions forcées, pour qu'il puisse garantir, pour que l'État haïtien, le gouvernement haïtien, puisse garantir des logements décents, selon le vœu de l'article 22 de la Constitution haïtienne de 1987. Ces comités de camps d'hébergement de déplacés internes organisent des conférences de presse, des sittings, des manifestations pour exprimer leur ras-le-bol devant cette situation. Dans une note de presse datée du 12 octobre 2010, le BAI rappelle au gouvernement haïtien que le droit au logement est un droit fondamental de l'homme et de la femme, explicitement reconnu par la Constitution de 1987 dans son article 22, qui stipule « L'État reconnaît le droit de tout citoyen à un logement décent, à l'éducation, à l'alimentation et à la sécurité sociale. » Dans cette même note de presse, le BAI réitère la demande déjà formulée par M. Michel Force, expert indépendant des Nations Unies, sur la situation des droits de l'homme en Haïti, et suivant laquelle le gouvernement haïtien se doit de négocier un moratoire avec les soi-disant propriétaires de terrains vides servant de camps d'hébergement en attendant l'adoption et l'implémentation d'une solution définitive au bénéfice des déplacés internes. Entre le 22 avril 2010 et le 13 mai 2010, l'Organisation des Nations Unies a négocié un moratoire de 3 semaines avec le gouvernement haïtien sur les expulsions forcées, dont le gouvernement haïtien est bien au courant. Il est donc regrettable qu'un droit aussi fondamental que le droit au logement des déplacés internes soit aussi banalisé, ainsi que le gouvernement haïtien a habitué la population haïtienne à voir bafouer et pétiner ses droits fondamentaux à l'éducation, à la santé, aux loisirs, au vote, etc. Il serait aussi pitoyable, dans le même ordre d'idée, que la communauté nationale se fasse complice des menées gouvernementales de nature à induire les consciences les plus vigilantes en erreur. Merci.
Hello, my name is Ryan Smith. I'm a law student from the University of San Francisco. This summer, I worked in Port-au-Prince with the BAI. We documented changes in internal displacement camps since February. Conditions have deteriorated. People consistently reported a lack of sufficient food. Repeatedly reported problem for many internally displaced people was the increasing threat of forced evictions. Being evicted means being less likely to survive. Evicted families often must relocate to more remote areas, farther from already scarce food aid and established life-sustaining community ties. Without safe shelter, children, girls, and women are prone to sexual assault. Given the daily struggle to survive, these homes are the only physical connection holding families and communities together. The UN Secretary General's representative on human rights for internally displaced people, Walter Kaelin, after just visiting Haiti last week, stressed the importance of the Haitian government respecting due process as well as the need for the government to come up with reasonable alternatives to forced eviction in these procedures. This is a human rights problem that demands a human rights solution.
Hello, my name is Jennifer Goldsmith. I'm a student at American University's Washington College of Law and the International Human Rights Law Clinic. The actions and inactions of the Haitian government they have just heard amount to violations of the rights of Haiti's IDPs under the American Convention, including the rights to life, humane treatment, property, privacy, judicial protection, due process, the family, and the child. As to the right to life, Article 4, the Inter-American Court has concluded that the status of displaced is a de facto status of lack of protection in which the state has a positive obligation to adopt preferential measures. Forced evictions of internally displaced communities by means of attacks or other acts of violence, especially when perpetrated by the state agents, are a blatant violation of the right to life. Furthermore, under Article 5, the right to humane treatment, IDPs who are deprived of their liberty have the right to conditions that respect their personal dignity. This means that the state must ensure living conditions that safeguard the fundamental rights of IDPs, such as ensuring that bare necessities are not purposefully withheld from camps. In the case of Entango Massacres versus Colombia, the Inter-American Court found that the right to property, Article 21, is violated when any property destroyed, including any personal property, no matter its value. The right to property is connected to the right to privacy when family dwellings are destroyed. Article 11.2 protects an individual's private life and home from arbitrary or abusive interference. It recognizes that there is a personal sphere that must be protected from interference by outsiders, and that personal and family honor in the home must be protected against such interference. This private sphere is violated when HMP officers drag people out of their tents and destroy their tents. Thank you.
Thank you, Jen. My name is Laura Carr. I'm also a student at American University's Washington College of Law, International Human Rights Law Clinic. Haiti's practice of conducting and permitting forced evictions has a particularly severe impact on vulnerable groups of IDPs, including families, children, and women. Article 17 requires Haiti to protect families. However, families subject to eviction suffer the disruption of whatever family life they have been able to rebuild since the earthquake. Article 19 states that Haiti must give children special protection because they are among the most vulnerable members of society. Instead of recognizing this vulnerability, Haiti has conducted and allowed forced evictions that disregard children's rights. As my colleague Ryan said, because of the evictions, children suffer from hunger, malnutrition, skin rashes, and other complications, along with, and sometimes more severely than, the adults in their communities. Forced and threatened evictions also have a severe impact on women. By perpetrating and permitting forced evictions, Haiti has failed to abide by its obligations under three articles of the Convention of Belém do Pará: the Article 3, right of women to be free from violence; the Article 7, duty of states to refrain from engaging in violence against women; and the Article 9, obligation of states to protect vulnerable women, including IDPs. These violations demonstrate the Haitian government's failure to fulfill its obligation under the Inter-American Convention and the Convention of Belém do Pará. We would also like to remind the Commission that the fact that some camps may be located on private land does not excuse Haiti's human rights violations. The government and private parties that it supports have evicted IDPs extra-legally without regard for the due process of law guaranteed under Article 8 of the Convention or the judicial protection against human rights violations guaranteed under Article 25. Therefore, any claims that purported landowners may make against IDPs under the landowner's Article 21 right to property are moot. Haiti is not permitted to deny IDPs due process of law and judicial protection, and it must conduct all evictions in a lawful manner. This extensive list of violations demonstrates the severity of Haiti's forced eviction crisis and the need for the Commission's attention.
Madame la Présidente, Messieurs et Dames, membres de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, comme vous venez de l'entendre, les expulsions forcées des déplacés internes qui vivent dans des camps de fortune après le séisme du 12 janvier 2010 enfreignent la constitution haïtienne, les lois haïtiennes, les conventions et les traités internationaux. Ces témoignages vous montrent que le gouvernement haïtien a joué un rôle important dans les expulsions forcées et illégales des déplacés internes au lieu de garantir leurs droits. Jusqu'à date, le gouvernement haïtien n'a offert aucune alternative pour relocaliser les déplacés internes. Le gouvernement haïtien doit immédiatement négocier et décréter un moratoire des expulsions forcées et illégales des déplacés internes. Vérifier les titres de propriété des soi-disant propriétaires et nationaliser par décret tous les terrains déserts, oisifs, entre les mains des présumés propriétaires. En ce sens, nous vous demandons respectueusement d'examiner ces violations des droits humains du peuple haïtien, particulièrement des déplacés internes. Constater la défaillance et l'impuissance du gouvernement haïtien à adresser ces violations et jouer un rôle majeur dans la résolution de cette crise annoncée. À ces fins, nous demandons également, nous réitérons, car en mars, le 23 mars, nous l'avons dit ici, nous le réitérons à la Commission interaméricaine des droits de l'homme de visiter Haïti pour vérifier ces violations flagrantes des droits humains. L'état infrahumain est quasi bestial où le peuple haïtien est réduit. Et l'indifférence et le mépris du gouvernement haïtien face à cette situation. Merci.
Merci beaucoup, tous les représentants qui sont ici. Comme c'est la pratique, je donne la parole premièrement aux autres commissionnaires pour les questions qu'ils vont poser. Et après, j'ai aussi plusieurs questions. Luce Patricia May.
Les agradezco mucho a los peticionarios la presentación que nos han hecho. Quería saber si ustedes manejan un estadístico de cuántos desalojos forzados ha habido hasta la fecha. Y en ese proceso, una vez que se da el desalojo, entendí que lo que estaban planteando es que las personas salían del territorio sin ninguna direccionalidad. No hay participación de distintas a las agencias del Estado, salvo los agentes policiales que acompañan a los propietarios para realizar el desalojo forzado. Y si hay algún mecanismo, luego de que las personas continúan en el desplazamiento, de que el Estado haitiano tenga conocimiento de esa situación. También quería saber quiénes son los que ubicaron, o sea, estos campamentos que están ubicados, ¿fueron ubicados por el Estado o fueron las comunidades que una vez que se les entregó los utensilios para hacer el campamento se ubicaron en ciertos lugares? No sé si quieren que repita las preguntas o están claras las preguntas. ¿Repito la pregunta? Ok. La primera pregunta es si tienen registro de cuántos desalojos han habido. La segunda, si solo han participado en los desalojos los agentes oficiales que ejecutan el desalojo. O si ha habido otra participación del Estado en el desalojo. Y la tercera pregunta, ¿quién ubica a los campamentos? Cuando las comunidades se ubican en un lugar, ¿quién las ubica? Si es el Estado que dijo, ubíquense aquí, o las comunidades toman territorio sin ninguna participación del Estado.
Comisionado Escobar, aquí.
Quiero agradecer a los peticionarios la información presentada. Me parece muy importante la última pregunta formulada por la comisionada Luz Patricia Mejía en el sentido de que es importante conocer cómo llegaron las personas desplazadas que han sido desalojadas a esos predios. Si fue el Estado el que les entregó esos predios o ellos llegaron por sí a ocuparlos. Esa sería una pregunta. La segunda pregunta, de acuerdo con la información, estos desalojos se realizan sin que la autoridad siga ningún procedimiento. Se realizan de facto, y si se realizan de facto, ahí estamos frente a una actuación arbitraria y una actuación delictiva de la policía. Entonces, frente a la comisión de sus delitos, quería preguntar si se han formulado las denuncias penales correspondientes ante las autoridades públicas. Y una tercera pregunta es conocer si el Estado ha adoptado políticas para entregarle tierra o entregarle vivienda a estas personas que han sido desalojadas. Y si existen algunos procedimientos o acciones judiciales que puedan emprender estas personas para volver a la tierra de la cual han sido desalojadas.
Merci beaucoup. Je voudrais remercier también aussi les pétitionnaires. J'ai une question sur les recours internes. Est-ce qu'il existe des recours internes? Sinon, pourquoi nous n'avons pas reçu jusqu'au présent une pétition contre l'État d'Haïti sur cette situation? Si j'ai bien compris, c'est commencé le début de cette année, mais jusqu'à présent, nous n'avons reçu rien sur la situation. Est-ce qu'il y a une préparation d'une pétition sur ce sujet?
Je vais commencer, merci. Bon, je vais commencer par répondre à la question de Madame la Présidente. Oui, il y a une action et qui est, je dirais, quasi et fin prête à présenter par devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Et on va le faire, je pense, d'ici la semaine prochaine. Et pour retourner aux autres questions, et le séisme du 12 janvier, en fait, moi j'étais là, j'étais dans mon bureau. Quand le bureau secouait, et heureusement, il n'a pas effondré. Et il y avait environ près de 2 millions de personnes qui ont perdu leur maison. Et dans l'histoire d'Haïti, ma génération et la génération de ma mère n'est pas vraiment au courant de cette histoire de séisme, de tremblement de terre. C'est-à-dire que nous n'étions pas vraiment préparés et à cette situation. Et c'est vrai, et les bureaux de l'État, et le palais national, le palais législatif, le palais judiciaire, et même le DGI, l'impôt pour les impôts, ont tous effondré. Et c'était la panique et la pagaille. Et c'était l'intelligence des habitants qui, ça et là, soit sur les places publiques, sur les terrains vides, s'abritaient. Parce qu'il y avait encore des répliques. Et les répliques étaient aussi fréquentes après le séisme. Et disons que le gouvernement a bien identifié, et je peux vous dire, en juin 2010, le gouvernement haïtien, malheureusement, en juin 2010, a reconnu l'existence de 1191 camps où vivent des déplacés internes.
dont 1000 sont localisés à Port-au-Prince. Et le gouvernement est bien au courant. Et pour ceux qui visitent Port-au-Prince, ils savent très bien, au devant du Palais national, ce qu'on appelle le Champ de Mars, et toutes ces places-là, toutes ces places sont habitées des déplacés internes. C'est-à-dire que le président est bien au courant et de cette situation. Maintenant, sur et les expulsions, oui, je l'ai dit dans ma déclaration d'abondance que l'État haïtien a participé au lieu d'aider, au lieu de garantir les droits et de déplacer. Au contraire, l'État a aidé les particuliers à expulser les déplacés internes. Et je disais tantôt, des membres du ministère de l'Intérieur. Et c'est visible. Ils n'ont pas masqué. Ils ne sont pas masqués. Et des membres du CNE, le Centre national d'équipement, et avec leur bulldozer, accompagnaient les propriétaires de ces terrains. Et sans sommation, et là, et je comprends, quand je dis sans sommation, il peut y avoir sommation ou bien un jugement. Mais comme il n'y avait que la police, il n'y avait pas de jugement. Il devait avoir un huissier. En Haïti, suivant notre droit, c'est l'huissier qui exécute les jugements. Donc il n'y avait pas de jugement. Seulement des policiers, par exemple, des corps spécialisés de la police, comme la brigade intervention rapide motorisée, qui arrive sur des motocyclettes avec armée jusqu'aux dents et menaçait les gens et pour laisser le camp. Donc, il y avait l'aide. Mais à côté de ça, certaines fois, il y a aussi des juges de paix. Les juges de paix qui arrivent, non pas pour exécuter, pour donner l'entrée des lieux aux propriétaires ou bien à l'huissier pour exécuter un jugement, mais les juges de paix venaient pour soudoyer et les déplacer, leur demandant de signer un papier et pour un moratoire de 2 semaines, 3 semaines pour vider les lieux. C'est-à-dire l'État est bien au courant et aide les propriétaires à expulser de manière forcée et illégale. Donc, dans tous les cas d'expulsion forcée que je connais, il n'y a pas eu de jugement. Il n'y a pas eu de jugement, il n'y a même pas, et même un simulacre de procédure dans les tribunaux. Seulement avec la force, la police arrive et armée et pour mettre au dehors les déplacés internes. L'action judiciaire en Haïti, c'est très difficile et parce que c'est vrai, quand la personne est expulsée et ou bien il y a des dommages, tout ce qu'on peut faire et ce que nous faisons au bureau des avocats internationaux, nous verbalisons, nous demandons à un juge de paix de verbaliser, de constater. Mais écoutez, l'État qui est complice de cette histoire, quand nous portons plainte, ou bien nous et portons plainte par devant le commissaire suivant le système, pour dommages et intérêts, parce que dans certains cas, les objets, les tentes et des déplacés sont brisés. Donc, et réparation ou de dommagement. Donc, et le système haïtien est un peu, vous le savez très bien, très faible. Et en plus, l'État est complice de cette situation. Parce que mon gouvernement ne veut pas, ne veut rien faire, ne veut pas donner de maison, ne veut pas respecter l'article 22 de la Constitution pour donner, pour garantir de logements décents aux déplacés. Eh bien, il cherche une politique d'usure en harassant les gens, en utilisant d'autres méthodes pour que les gens laissent les camps de par eux-mêmes, sans que l'État intervienne pour relocaliser, pour prendre ses responsabilités.
I wanted to add one thing about whether the state has been involved in placing individuals in the camps and the communities in the camps. And the government has allocated a couple of camps with the help of the Camp Coordination Committee, monitored by the UN and the Organization of Internal Migration. But there's only been a couple of camps that have been officially designated by the government on suitable land, and those were filled up pretty quickly. So most of the residents do not have anywhere else to live but where they live now. And we did a survey in July in six different camps, and what we found was that people live there, almost 100% of the people live there, because either their homes were, had been destroyed, I think it was over 90% had gone there because their homes had been destroyed, and that the majority could not return back to their homes because either it remained destroyed or because they could not afford to pay rent because the rent had gone up so much since the earthquake.
If I could just add one additional point. We spoke about circumstances where camps have been located on what could possibly be privately owned property, and I emphasize the word possibly. The records we've seen indicate that less than 5% of land in Haiti has been officially recorded. And so a concern is that in some circumstances, individuals who purport to own the land on which IDPs have settled actually don't have either legal title or, in some circumstances, superior property rights. And that gives rise to a concern given the lack of due process when officials are carrying out these forced evictions.
Alors, je retourne pour dire, peut-être j'ai raté, est-ce que les déplacés internes ont occupé tout seuls? Oui, c'était le cas. Et après le tremblement de terre, et je disais avec les répliques, tout le monde cherchait un endroit pour s'abriter, un endroit libre. Comme ça, les déplacés ont occupé des terrains vides, oisifs et déserts, et les places publiques. Mais déjà, ça fait 9 mois. Le gouvernement haïtien est bien au courant de cette situation. Et je ne veux pas le dire en tant que citoyen haïtien, mais tout le monde peut le remarquer. Le gouvernement haïtien est un gouvernement délinquant.
Could I ask a follow-up question about the extent to which the government is making any efforts to actually relodge people in by building either temporary or permanent housing? What's happened to all the money? Where's it going? Why isn't there housing this late in the process after the earthquake?
Bon, je n'ai pas encore vu ces maisons, mais j'ai entendu les sommes faramineuses, ou bien qui sont promis, ou bien qui sont arrivées en Haïti. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait en termes de logement. Et comme je disais tantôt, peut-être cet argent sont allés dans les tiroirs de la corruption, je ne sais pas. Et la corruption, ce n'est pas seulement et l'État haïtien qui soutient, mais les ONG aussi participent aussi dans cette situation. Mais le grand problème, à mon avis, c'est le problème de l'exclusion qu'il y a en Haïti. Et parce que les lois sont claires, et le gouvernement haïtien vient de prendre un décret au cours du mois de septembre 2010 pour déclarer l'identité biblique. Et le downtown, le bas de la ville. Puisque le bas de la ville, c'est l'affaire des riches, eh bien, ils prennent des décisions. Mais pour relocaliser les pauvres, et maintenant, ils ne trouvent pas de loi. Ils disent toutes sortes de choses pour ne pas le faire. Mais c'est clair, c'est vrai, il y a les maisons qui doivent être construites, mais il y a la terre. Et la plupart des terrains que nous autres, en fait, nous documentons, 70% des terrains où habitent, où vivent les déplacés internes sont des terrains publics, mais qui sont certaines fois transformés en terrains privés. Que, rappelez-vous, nous connaissons en Haïti la dictature. À l'époque, les gens faisaient chou et rave
avec les biens de l'État haïtien. Comme ça, ils peuvent transformer un terrain privé en terrain public, en terrain privé. C'est pourquoi nous disons que l'État doit vérifier les titres de propriété. Parce que là, l'État va poser le problème de terre. Ce n'est pas vrai. Et il y a beaucoup de terres en Haïti pour construire, si on veut construire pour les pauvres, pour les exclus. Le problème, c'est un problème de volonté et le problème de l'exclusion qu'on a en Haïti.
I think one of the problems is that the money that's been pledged hasn't actually arrived. The last time BAI and IJDH was before you in March, there was a great hope that almost $10 billion had been pledged at the donors' conference. And I think we thought this was the beginning of a reform of Haiti, both in terms of the government and also of homes. but unfortunately, only about 20% of that money has actually arrived. And of the money that has arrived, about 25% of it has been allocated to projects. And the United States has about $1.5 billion that we're supposed to send that has not made it through Congress, and so it hasn't been sent yet. So one of the answers is the money has not arrived as pledged. This is not the first time Haiti has seen this problem. But another problem is that there's been a lot of organizations that we've spoken with who want to build homes, Habitat for Humanity, those types of organizations. Back in April, they started calling us and saying, how do we figure out this land title issue? We'd like to build thousands of units. Can you please help us? And unfortunately, as Mario described, the land title issue is an enormous problem. It's not for lack of land. There's a national organization called EPPLS that we've met with who's told us that there are the same eminent domain policies that we're familiar with. They're not that different in Haiti, and that the government does have the authority to exercise eminent domain or use public land to assure that there's adequate land available for building of housing units. When you drive or walk around the streets in Port-au-Prince, what you see is rubble everywhere. It looks, in most places, like the earthquake happened yesterday and that nobody has just gotten there yet. And so one big problem, of course, in rebuilding also is just clearing the rubble. And only, I think, the New York Times reported that only a very small percentage of the rubble had been created and that would take 20 years to clear all the rubble if people were taking, you know, tons of rubble out every day.
Thank you very much. Thank you very much for coming. Given us a lot to think about, and we've taken very seriously, on prend très sérieusement l'invitation pour faire une visite à Haïti. Luz Patricia Mejía est le rapporteur pour le droit des femmes. Je suis le rapporteur pour Haïti. Et nous deux avons beaucoup d'intérêt de faire une visite très bientôt. Merci beaucoup.
If I may, I just want to refer you in the materials is a report that we did on gender-based violence in Haiti that I recommend you're reading. You probably already have. And also a petition for precautionary measures was filed this week on behalf of rape victims living in camps in Haiti. So thank you so much for your interest.